Je pense que vous m'entendez. Je suis Bernard Clazen. Donc, il y en a qui ne me connaissent pas. D'abord, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas inscrits ordinairement au CIF. Je suis directeur du CIF. Aude Ragozin est la présidente. Un certain nombre d'entre vous, vous avez suivi le cycle du CIF d'une manière complète. Et donc, vous êtes en train d'achever un parcours de 2 ans. Assez cohérent entre, disons, la théologie, la liturgie, l'anthropologie et la Bible. Et donc là, il y a un cours qui a commencé au troisième trimestre, qui est un cours donné par Laurent Lemoine, un cours de théologie morale. Et c'est dans le cadre de ce cours de théologie morale que viennent ces 4 soirées. Donc nous sommes 2 à faire, à vous proposer ces 4 soirées. Bruno Girard, qui va animer les 2 premières soirées sous ce mode, c'est-à-dire en Zoom, les 2 fois, à chaque fois avec une participation et des documents qui seront sur le site. Et moi, je prendrai ensuite la 3e et la 4e séance pour faire quelque chose qui sera plus centré sur l'écologie au sens classique du terme. Alors que Bruno va faire quelque chose plus sur l'économie, mais intégrée dans ces questions de la conversion écologique nécessaire. On a donc 2 thèmes qui se complètent, même qui se chevauchent, qui se lient l'un à l'autre. Donc lui, pendant 2 soirées, moi, les 2 suivantes. De mon côté, vous trouverez sur le site les documents par PowerPoint et bande son, les 2 documents. Je vais faire des documents de 20 minutes de manière à ce qu'ils ne soient pas trop longs à télécharger pour vous. Et on se retrouvera par Zoom, mais pas 2 heures. On se retrouvera à un Zoom d'une demi-heure pour discuter à chacun de mes rendez-vous, c'est-à-dire 14h et 20h, les 2 lundis, les 2 mardis suivants. Donc pour l'instant, c'est Bruno Girard qui va se présenter. Et qui va animer ces 2 soirées. Voilà, merci à tous d'être présents. Il va vous dire comment utiliser au mieux vos petits appareils. Voilà, bonne soirée à tous. Moi, je ne vais pas rester. Hein, je ne vais pas rester avec vous parce que je me suis déjà tapé 2 heures de cours cet après-midi.
Alors, ça suffit. Hein.
C'est intéressant. Je ne me suis pas ennuyé, mais bon, je ne vais pas le répéter. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et merci Bruno, et à bientôt.
Bonsoir Bernard.
Je te laisse la parole.
Bonne soirée.
Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. En fait, j'étais à votre place l'an dernier, puisque j'avais assisté au cours d'Hélène Alassida, qui nous avait fait une introduction et un commentaire sur la date aussi. Et donc, cette année, donc, le père Clazen m'avait proposé de participer donc, à la manière, sous l'angle économique, à ce cours. Alors moi, dans la vie, j'ai deux missions qui ne sont pas tout à fait sur le même plan. Je suis diacre permanent du diocèse de Nanterre. Je suis à la paroisse du Saint-Esprit, à Meudon-la-Forêt. Et je suis banquier. Banquier dans les domaines de la finance des professionnels de l'immobilier. Alors finalement, ce cours me donne l'occasion de réunir un peu les deux aspects. Souvent, quand je dis que je suis banquier en tant que diacre, les gens me regardent avec des gros yeux en disant « mais comment tu peux concilier le monde de l'argent ?» Et voilà. Et l'un des buts de ce cours, ça sera de montrer justement que on peut, même s'il y a des excès dans la finance, on peut contribuer à une réflexion pour une finance plus éthique, pour une finance qui préserve l'environnement, et on expliquera un petit peu les différents thèmes. Donc c'est un cours qui m'a permis de travailler cet aspect. C'est vrai que dans mon monde professionnel, je suis souvent confronté à ces sujets de quand on finance un client, un promoteur immobilier, ou quel est l'impact sur l'environnement, qu'est-ce que l'on finance exactement, hein, et par quels moyens aussi les fonds propres sont apportés, par quel truchement, est-ce qu'il y a des, Est-ce qu'il y a des origines qui peuvent être suspectes de des fonds investis, etc. Donc, on boucle assez vite sur des questions éthiques. Hein, et dans le métier de la banque, il y a aussi ce problème, cet aspect de vérification, ce qu'on appelle la conformité, une conformité déontologique, hein, qui a particulier aussi avec ma foi en tant que chrétien et en tant que, j'allais dire, baptisé, engagé dans la vie de la cité. Alors, je vais vous donner quelques conseils sur Zoom. Vous voyez, on est nombreux, mais il ne faut pas que ça vous empêche d'intervenir. Sur Zoom, on peut intervenir quand on veut. Il suffit que vous preniez la parole. Hein. Donc, si vous prenez la parole, immédiatement, vous allez passer au premier plan. Tout le monde va vous voir. Et donc, n'hésitez pas. Moi, je souhaite que vous m'interrompiez. D'abord, si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous voulez compléter, argumenter ou apporter une touche personnelle, n'hésitez pas, parce que plus le cours sera interactif, plus il sera, je pense, vivant pour vous, pour nous tous. Et puis, à plusieurs, on est plus intelligent. Je suis pas là pour vous délivrer un cours didactique avec une pensée officielle de l'Église, mais ce sont des réflexions alimentées bien sûr par les textes de l'Église, mais vous pouvez, et en tant que chrétien, en tant que baptisé, en tant qu'acteur économique, on a évidemment notre propre expérience. Alors, vous avez le petit bouton, est-ce que vous avez tous repéré le petit bouton muet, le petit micro sur votre écran? Est-ce que vous l'avez tous? Ceux qui l'ont bien repéré, levez la main s'il vous plaît. Oui, oui. Oui, Marie Solange, Judith l'a repéré aussi. Oui, d'accord. Valérie, oui, le petit bouton, c'est bon, ça marche. Oui. Alors, est-ce que certains veulent essayer de parler, là, juste faire un essai, me dire bonjour pour voir si ça
marche. Bonjour. Bonjour, Antoine.
Voilà. Donc oui, ça marche très bien. On arrive tout de suite sur le devant de la scène. Il faut éviter de parler en même temps, mais sinon ça se régule très facilement.
Bonjour.
Très bien. Donc
bonjour,
ça fonctionne.
Thérèse.
Bon. Donc c'est parfait. Alors, vous avez aussi un petit bouton en bas à droite, un petit bonhomme. Vous le voyez, un petit bonhomme souriant où il y a marqué réaction.
Ouais.
Vous voyez ce petit bonhomme en bas à droite, réaction.
Ah oui.
Ouais.
Alors, vous voyez, par exemple, moi, je peux envoyer un pouce si je suis d'accord. Et voilà. Il y a un applaudissement ou un pouce. Donc, vous pouvez vous servir de ça aussi pour dire que vous voulez parler, hein, ou que ça vous plaît, etc. Et puis, il y a aussi le bouton « Converser ». Et là, on peut, sur la conversation, s'envoyer un certain nombre de documents. Alors, on peut converser aussi en privé. Bon, ça, pendant le cours, je ne vous conseille pas trop. Mais néanmoins, si, voilà. Mais on peut s'envoyer des documents qu'on peut partager. Hein. Et d'ailleurs, je vous ai envoyé tout à l'heure le plan du cours. Voilà. Vous l'avez vu, c'est un document PDF, hein, qui s'appelle « Plan du cours, un autre regard sur la dette aussi, sur la finance ». Et ça vous permet… d'avoir recours à des documents écrits. Tout ce que je vais vous projeter, de toute façon, sera à votre disposition sur le site du CIF. Et je pense que Jean-Yves est en train aussi de nous enregistrer. On aura la séance enregistrée dans son intégralité pour si vous avez besoin ou envie de vous replonger dans ce que nous avons dit.
Oui, bonsoir. Excusez-moi, je suis Stéphanie. Donc, je suis le parcours. J'ai fait le CIF il y a très longtemps. Je viens juste pour ces 4 séances. Où est-ce qu'est votre plan du cours? J'ai pas bien compris.
Alors, dans le mot converser.
Ah ouais.
Oui, vous cliquez sur converser.
Oui, ça y est.
Vous avez.
Non, j'ai les conversations de Roselyne et de Guy.
Oui, mais normalement, vous devez avoir.
Plan du cours CIF, oui.
Alors, dans converser,
7h57, 7h57 l'après-midi, il y a de Bruno Girard à tout le monde, plan du cursif, un autre regard.
À tout le monde. Merci, trouvé.
Vous l'avez? Bon.
Oui, alors, parfait.
Bon, alors je vais maintenant partager mon écran pour pouvoir vous présenter le document, hein, les slides que j'ai préparés et qui vont servir de support à ce que je vais vous relater. Donc, alors, c'est quoi ça? Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran ?
Oui, très bien.
Vous le voyez bien. Et là, vous allez le voir encore mieux. Voilà. Donc, Laudato si, un autre regard sur la finance et l'écologie. Alors, je vous ai mis une tortue parce que, bon, c'est une espèce qui est un petit peu menacée aussi hein, par l'homme, en fait, en ce moment. Et donc, c'est une espèce protégée. Puis, c'est une espèce qui évoque à la fois la durabilité, puisque les tortues vivent vieux, et puis l'agilité, hein, parce que quand on a vu une tortue, avancer dans l'eau, c'est quelque chose d'assez fascinant. C'est des animaux très mobiles, même si sur Terre, ils sont moins rapides. Le sous-titre, donc, c'est « Un autre regard sur la finance et l'écologie ». Laudato si est une encyclique du pape François qui a 5 ans, on va revenir d'ailleurs là-dessus. Cette encyclique, elle a pour objet, bien sûr, l'écologie, mais elle traite d'une manière générale de l'économie. Et dans l'économie, on a voulu mettre en exergue sur ces deux premières séances la dimension de la finance. Cette encyclique peut nous dire de la finance? Quelles sont les clés d'analyse que nous donne cette encyclique sur la finance telle qu'on la pratique actuellement dans le monde? Alors, je voudrais illustrer la problématique par ces deux dessins. Une toile de Lucas Cranach qui a été réalisée au XVIe siècle, et puis une mosaïque de Sainte Vitale à Ravenne. Ceux qui sont allés à Ravenne, vous avez peut-être le souvenir de ces splendides mosaïques qui datent du VIe siècle après Jésus-Christ. À gauche, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit Adam et Ève sous l'arbre de la connaissance et dans ce qu'on appelle le jardin d'Éden, donc dans le paradis. Donc, voilà, au démarrage, dans la Genèse, au début de la Bible, le paradis, c'est un jardin. Si on se reporte à la fin du livre, à la fin de la Bible, donc dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, l'Apocalypse nous décrit le royaume de Dieu dans une cité sainte, qui est la Jérusalem céleste. Et cette Jérusalem, elle incarne en fait le royaume des cieux. Cette Jérusalem, elle a des portes ornées de pierreries, elle a des murs très hauts, c'est une cité qui est protégée, qui a 12 portes, hein, à l'instar des 12 tribus d'Israël ou des 12 apôtres. C'est donc un passage entre le jardin et la ville. Et on pourrait dire que notre destinée humaine se situe quelque part entre ces deux extrêmes, entre la nature et puis ce que nous sommes amenés, nous, à construire dans cette vie, c'est-à-dire la ville, hein, la construction, le bâtiment, les interactions qu'on peut avoir avec nos frères, notre prochain, dans une ville. Bon, voilà, je voulais vous rappeler ça pour mettre un petit peu, faire une sorte d'exergue sur le cours. Alors, quelques éléments de contexte. Alors, je vais commencer par une petite vidéo. Alors, je vais arrêter le partage, parce que maintenant, je suis habitué à ça. Hop, et on va. Je vais vous projeter une petite vidéo, vous allez voir. C'est quelque chose qui a été diffusé pendant le Covid. Vous avez tous sûrement reçu pas mal de petites vidéos. Et c'est d'ailleurs une vidéo qui date de quelques années, mais qui a été pas mal popularisée pendant le Covid. Et d'ailleurs, on va voir pourquoi. Voilà, vous voyez bien là l'écran. Voilà. Alors, à votre avis, pourquoi je vous ai projeté cette vidéo? Qu'est-ce qui vous frappe dans cette petite vidéo qui paraît apparemment très loin de notre sujet, mais finalement, qui ne l'est pas tellement?
C'est la capacité que la création peut se réjouir de vivre, peut-être. C'est la joie.
Oui, oui, c'est vrai que cette biche, elle exprime la joie, tout à fait, Ophélie. Qui veut compléter, qui veut...
Peut-être aussi une rencontre de deux éléments qui ne devraient jamais se rencontrer. La biche est plutôt un élément de forêt qui va se protéger, alors que la mer est immense, c'est un ciel ouvert.
Oui, c'est vrai que c'est assez rare de voir des biches en bord de mer, tout à fait. Oui.
Moi, je vois à la fois une liberté et une limite. Voilà.
Alors, la liberté, on comprend bien. La limite, dans quel sens ?
Parce que la biche, elle avance de quelques pas dans la mer, mais après, elle s'arrête.
Oui. Ce n'est pas son élément naturel, disons. Oui. Pourquoi cette vidéo a-t-elle eu tant de succès sur les réseaux sociaux pendant le confinement ?
Peut-être parce qu'elle représentait ce qu'on aurait voulu faire, alors qu'on ne pouvait pas faire.
Oui, ça c'est sûr que ça représentait une certaine liberté. Oui.
Et il y avait aussi l'aspect inhabituel. Voilà.
Oui. Il y a peut-être une autre idée qui a été souvent reprise par les médias pendant le confinement.
La nature reprend ses droits ?
Voilà, c'est ça. La nature a repris ses droits. On l'a beaucoup entendu, ça. Hein. On a dit qu'on entendait mieux les oiseaux, par exemple, puisqu'on n'entendait plus les moteurs ou les avions. J'ai vu à Paris un écureuil près d'un feu rouge. Vous voyez, ce genre de rencontres inhabituelles. Le monde animal avait repris ses droits. Vous voyez, la crise du Covid, c'est la crise où l'économie s'est arrêtée. Enfin, on a volontairement arrêté l'économie pour des raisons sanitaires. Et immédiatement, la nature a repris ses droits. On a vu aussi que les villes avaient beaucoup moins pollué. Les photos de satellites, par exemple, des grandes villes en Chine étaient très, très marquantes. Le brouillard de pollution a quasiment disparu. Et donc, ça nous questionne et ça nous pose la question, comment repenser le monde, hein? Comment, après le confinement, quand l'économie va repartir, est-ce qu'on repart comme avant, plus fort qu'avant, ou est-ce qu'on repart un peu différemment? Et cette question, en fait, de comment repenser le monde, nous pose aussi la question de la place de l'homme dans la création. Voir que le monde animal a repris sa place, a repris plus de place, nous questionne aussi, nous, les hommes, sur notre place dans la création. Et si nous n'avions pas laissé assez de place au monde animal ou au monde végétal, au monde minéral. Là, le fait que nous soyons terrés dans nos maisons fait que ces mondes, ces autres mondes ont pu reprendre leur importance. Donc, voilà ce que je voulais illustrer. Alors, attendez, je reprends le partage d'écran. Voilà. Et je me remets. Voilà. Alors, nous sommes à une date anniversaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, on fête, mais c'est tout récent, le 24 mai, on a fêté les 5 ans de l'encyclique Laudato Si. Son sous-titre, vous savez, c'est « La sauvegarde de la maison commune ». Le pape, d'ailleurs, a décrété une année quasiment pour célébrer Laudato Si. Donc, il y a un certain nombre d'événements qui vont être repris au niveau du Vatican et proposés dans l'Église entière et dans le monde entier pour reméditer un petit peu tout l'apport théorique qui a été développé dans cette encyclique. Cette encyclique, d'ailleurs, a été très populaire dans les milieux non chrétiens, dans les milieux justement de la réflexion écologique, des milieux qui n'étaient pas forcément très habitués aux textes catholiques, du magistère catholique. Elle est assez moins connue, cette encyclique, parmi les chrétiens. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il en est chez vous. Est-ce que vous l'avez par exemple tous lu, ou est-ce que vous êtes en train de la lire parce que vous assistez à ce cours? Mais faites un petit sondage dans les paroisses, même auprès des prêtres. Finalement, assez peu de prêtres ont lu cette encyclique, Laudato Si. Et pourtant, elle a une forte résonance. Alors, c'est un peu normal parce qu'il faut prendre du temps pour intérioriser ce texte. Mais ce texte est complètement fondamental pour comprendre la pensée de l'Église et pour comprendre aussi tout ce qui concerne la vision sur l'économie, sur la société de l'Église. Alors d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que certains n'ont pas lu tout de suite en disant que ce n'était pas une encyclique théologique. Alors d'ailleurs, ceux qui l'ont lu, vous avez remarqué, c'est une encyclique très simple à lire. Il n'y a pas de termes compliqués dans Laudato Si, il n'y a pas de jargon vaticanesque, ça se lit très facilement. Ça part d'un constat économique, il y a des propositions, c'est très concret, très pratique. C'est bien d'ailleurs dans le style de notre pape François. Et donc, bien sûr que l'encyclique a une portée théologique, mais on rentre dans l'encyclique par le concret, par le réel. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette encyclique fait partie, complètement intégrante de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Alors, doctrine sociale de l'Église, je pense que vous connaissez un petit peu le terme. On dit aussi pensée sociale de l'Église, parce qu'on a trouvé que la doctrine, ça faisait un peu peur. En fait, c'est la même chose. C'est tout un corpus, la doctrine sociale de l'Église, de textes qui viennent compléter la vision du christianisme sur la société, sur l'économie. Évidemment, la doctrine sociale de l'Église, elle est déjà contenue dans l'Évangile. Les Évangiles nous parlent de la problématique sociale. D'ailleurs, il y a des paraboles du Christ qui sont très branchées sur le monde de l'économie. Je pense à la parabole des talents ou la parabole des ouvriers de la dernière heure, où on nous parle de salaire, on nous parle de rétribution, de taux d'intérêt. Donc, vous voyez, Jésus lui-même a pris les éléments de son temps pour expliquer sa vision du royaume, pour expliquer et pour donner des conseils et faire comprendre ce qu'il venait nous dire sur la terre. Donc cette encyclique, elle est un élément de la doctrine sociale de l'Église, et elle en reprend d'ailleurs les thèmes principaux. Alors, à qui s'adresse le pape? Le pape s'adresse dans une encyclique, ça c'est traditionnel, il s'adresse d'abord aux évêques, c'est-à-dire les successeurs des apôtres, il s'adresse aux prêtres, aux diacres, aux religieux, aux religieuses, et depuis Jean 23, aux hommes de bonne volonté. Donc l'expression est reprise de la Bible, c'est une belle expression, et toutes les encycliques depuis Jean 23 s'adressent aux hommes de bonne volonté. Vous voyez, c'est vraiment un élargissement, vous savez, le mot catholique, ça vient du grec catholicos, qui veut dire universel. Voilà. Donc, l'Église a vocation à l'universalité, et la parole de l'Église a vocation à l'universalité, même si certains ne sont pas croyants, ne sont pas chrétiens, eh bien, ils peuvent néanmoins recevoir une parole, et il peut y avoir un dialogue, une discussion avec les hommes de bonne volonté. Eh bien, dans Laudato si, le pape François va franchir un degré supplémentaire, puisqu'il l'adresse non seulement aux hommes de bonne volonté, son encyclique, mais il l'adresse à tous les habitants de la planète. Voyez, tous les habitants de la planète. Alors ça, c'est très important, parce que ça va nous dire déjà, vous voyez, le mot important, c'est le mot habitant, habiter la planète. Qu'est-ce que ça veut dire, habiter la planète? Donc ça, c'est une réflexion nouvelle. L'encyclique est vraiment élargie à tous les habitants de la planète. On pourrait dire que les habitants de la planète, ce n'est pas forcément les hommes. Ça peut être plus large. Ça vise aussi le monde animal, que l'on songe à Saint François qui parlait aux oiseaux. Le sous-titre de l'encyclique est tout à fait important, puisqu'il s'agit de la sauvegarde de la maison commune. Premier mot, la sauvegarde. Alors ça nous dit quelque chose d'essentiel dans cette encyclique, c'est que le pape porte une vision fondamentalement optimiste sur la faculté de l'homme à s'en sortir, à trouver une solution. Quand on sauvegarde, c'est qu'on peut faire quelque chose. On n'est pas empêché d'agir. Donc, la sauvegarde de la maison commune, c'est vraiment l'idée que l'homme a une place pour l'action, une action économique, une action politique, et que l'homme peut être créatif pour participer à cette sauvegarde. En gros, il n'est pas trop tard. Ça, c'est très important, parce que tous les écologistes, tous les verts, je parle là des mouvements de pensée ou politiques, n'ont pas forcément cette position-là. Les catholiques, les chrétiens, nous, on pense qu'il n'est pas trop tard. L'homme a le moyen d'agir pour rectifier le tir, pour cette sauvegarde. Et puis, le mot, bien sûr, important, c'est la maison commune. C'est le thème de l'habitat, le thème de l'habité. Et vous voyez, ce thème, on n'aurait sûrement pas posé cette phrase il y a 30 ans ou 40 ans, parce qu'on n'avait peut-être pas la perception que nous habitons dans une maison commune, et dans une maison qui s'est, somme toute, rétrécie. Pourquoi elle s'est rétrécie? Elle s'est rétrécie grâce ou à cause des moyens de communication modernes. Je ne pense pas à l'aviation, je ne pense pas à ça. Je pense à Google Maps. Vous avez toujours tous fait l'essai de Google Maps. Vous savez, vous partez du plus grand et vous allez zoomer sur le plus petit. Alors, vous voyez, vous avez la Terre, et puis ensuite la France, et puis ensuite la région parisienne, et puis ensuite Notre-Dame. Vous voyez, il y a un effet de loupe, qui est très prégnant dans Google Maps. Et Qu'est-ce que ça nous donne comme idée? Ça nous donne que le monde est tout petit. Il est surveillé en permanence par tous les satellites et nous pouvons avoir une vision de près sur tous les endroits du globe à tout instant chez nous, depuis notre ordinateur ou depuis notre télévision. Donc, ce simple phénomène-là rétrécit singulièrement le monde. Et la notion de maison commune est bien liée à ce rétrécissement. Ce monde est petit, il n'est pas infini. Et nous devons le respecter. Ce qui fait qu'on ne peut plus raisonner au niveau d'un État pour parler d'écologie. Et ça, on le sait bien. Vous vous souvenez du nuage de Tchernobyl qui s'était brusquement arrêté aux frontières françaises. Bon, on en avait fait des commentaires et des blagues. Enfin, c'était pas très drôle, mais on voit bien que la dimension écologique impose de raisonner d'une manière mondiale, d'une manière transfrontalière. C'est le cas aussi, par exemple, pour la préservation des océans. Les océans n'appartiennent pas à un pays, ils appartiennent à l'humanité entière, à la Terre entière. Et si on les préserve, eh bien, on raisonne forcément au niveau d'une action internationale. Si on se reporte au film de science-fiction, mais je vous dirai ça tout à l'heure. Alors, Laudato aussi, je vous l'ai dit, c'est une encyclique qui appartient complètement à la pensée sociale de l'Église. Alors, je vous ai mis quelques repères sur cette pensée sociale de l'Église. Voilà, quelques repères avec les grandes encycliques ou les grands textes. Il faut en connaître les principaux parce que finalement, c'est une histoire assez récente.
Alors, Bruno, excusez-moi, vous pouvez remettre juste la diapo d'avant, on n'a pas vu les repères.
Pardon.
Non, là, ça sert mieux au début, voilà. Il y a le petit tableau qui est apparu, en fait, et vous avez dû cliquer deux fois ou je ne sais pas quoi. Et puis,
voilà.
Voilà, super.
Bon. Alors, en fait, l'inventeur, d'une certaine manière, de la pensée sociale de l'Église, enfin, l'inventeur, c'est Jésus lui-même, mais dans la période récente, celui qui a mis en valeur cette pensée sociale, c'est le pape Léon XIII. Léon XIII, en 1891, il publie une encyclique qui s'appelle Rerum Novarum. Bon, vous en avez tous entendu parler, je suppose. C'est un texte considérable. Pourquoi ? Parce qu'on se situe donc à la fin du 19e siècle, dans une situation où la situation sociale des classes laborieuses était terriblement pauvre et en difficulté. Il y avait ce qu'on appelait un prolétariat ouvrier, avec des enfants qui travaillaient dans les mines, etc. Et donc, le pape consacre son encyclique au travail, hein, au respect du travailleur. Et donc, il indique il donne des clés, hein, de lecture et des propositions d'action très pratiques pour préserver le droit, la santé des travailleurs, le fait que les travailleurs puissent se reposer, puissent récupérer leur force de travail et puissent aussi être payés décemment. Vous savez que dans la lignée de cette encyclique, il y a eu ce qu'on appelle le patronat chrétien, hein, qui s'est beaucoup développé. Alors en France, ça s'est développé pas mal dans le nord de la France. Hein, il y avait une grande tradition par rapport même au bassin minier du nord de la France, ou même dans le textile, de patrons catholiques, chrétiens, qui ont essayé donc d'appliquer les principes de Rerum Novarum, avec la constitution de logements décents pour les ouvriers, de caisses de secours, de caisses d'épargne, hein, on incitait les ouvriers à épargner, de ce qui a préfiguré aussi les caisses de retraite, etc. Donc Rerum Novarum, c'est vraiment le début de l'aventure de la pensée sociale pour les temps modernes. Deuxième étape, c'est le pape Jean XXIII avec l'encyclique Pacem in Terris qui a été publiée en 1963. Alors 1963, on est encore dans l'après-guerre, hein, enfin on est moins de 10 ans de l'après-guerre. Et dans cette encyclique, Jean XXIII définit la paix comme le bien vivre ensemble. Voilà. Et vous savez qu'on était dans une période de guerre froide en 1963. Il y avait un véritable risque d'affrontement des blocs Est et Ouest et un risque de guerre, hein, puisque qu'on songe à la crise des missiles de Cuba, où il y a eu plusieurs moments où le monde a été à deux doigts de la guerre entre les États-Unis et l'URSS. Eh bien, le pape donc définit au niveau de la Terre entière la notion de paix comme le fait de pouvoir vivre correctement, de bien vivre ensemble. Troisième texte qui est très important dans la réflexion sur la pensée sociale, le Concile Vatican II, dans la constitution Gaudium et Spes. cette constitution, donc parue en 1965, eh bien, parle du rapport hein, entre l'Église et le monde, voilà, hein, du dialogue même entre l'Église et le monde. L'Église n'est pas hors sol, elle est vraiment dans le monde et dans les forces économiques, et les chrétiens sont amenés à jouer tout leur rôle de baptisés dans ce monde économique. En 1967, le pape Paul VI publie Populorum Progressio, c'est aussi une encyclique. Et là, Paul VI innove en introduisant une notion qui est celle du développement intégral. Retenez bien l'expression parce qu'on va la retrouver dans Laudato aussi. Le développement intégral, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'assurer la prospérité économique de l'homme, mais de contribuer à son développement total, complet, culturel, religieux, spirituel, économique. Et dans cette encyclique, Paul VI prend clairement position pour le caractère international de la question sociale. C'est une encyclique assez d'avant-garde. La question sociale devient internationale, et pourtant on n'était pas encore à l'époque de la mondialisation. Hein. On était dans une époque où il y avait déjà des multinationales qui commençaient à avoir des stratégies transfrontalières. Et là, le pape s'est un peu saisi justement de l'égalité de traitement hein, entre les travailleurs, de ce qu'on appelait aussi les termes de l'échange, hein, l'équité dans les termes de l'échange. Alors, on va attendre 1991 avec Jean-Paul II dans un texte, dans une encyclique aussi, qui s'appelle Centesimus Annus. Alors, pourquoi Centesimus Annus? Parce qu'on fêtait les 100 ans de Rerum Novarum. Hein. Donc, pour les 100 ans de Rerum Novarum, eh bien, le pape Jean-Paul II voulait effectivement promulguer une encyclique sur le travail. Lui-même, Jean-Paul, il avait été ouvrier. Jean-Paul II avait travaillé dans une mine de sel dans sa jeunesse. Hein. Donc, il connaissait bien le monde du travail, le monde ouvrier. Et dans Centesimus Annus, en 91, Jean-Paul II dénonce les excès du système capitaliste. Alors, vous voyez, ça peut paraître curieux parce qu'au moment où il a pu lui-même quasiment remporter une victoire contre le monde communiste qui s'est effondré, eh bien, il met en garde sur les déviances hein, ou les excès du monde capitaliste. Voilà, Centesimus Annus. C'est une encyclique qui est très, très simple à lire aussi. Je vous invite à consulter. Vous pouvez la trouver sur le site du Vatican. Benoît XVI, en 2009, fait paraître une encyclique qui s'appelle Caritas in Veritate. Et là, Benoît XVI, en 2009, c'est juste après la crise financière de 2008. Vous savez, cette grande crise économique qui a été en fait importée des États-Unis et qui vient d'ailleurs notamment des excès de la finance, des obligations dites pourries, des banques américaines qui avaient contaminé l'ensemble du système bancaire international hein, par le biais de produits très, très complexes au niveau de leur structuration financière. Et bien Benoît XVI nous parle dans cette encyclique de la finance raisonnée, la finance prudente, et met en place un certain nombre de propositions pour une finance qui préserve mieux les intérêts de l'humanité. Et puis le pape François, notre pape François, en 2013, alors là, ce n'est pas une encyclique, c'est une exhortation apostolique, a fait paraître la joie de l'Évangile. Et la joie de l'Évangile, si on le relit après avoir lu Laudato Si, on en voit énormément de correspondances, on y voit beaucoup de correspondances. Tout se passe comme si que dans la joie de l'Évangile, il y avait un certain nombre de thèmes qui étaient déjà en germe dans la pensée du pape François et qui va développer de manière plus avant. L'encyclique Laudato Si. À ce moment de mon exposé, est-ce que vous avez des remarques, des questions, est-ce que j'ai oublié de dire des choses importantes à vos yeux? Est-ce que vous avez des réactions? Non? N'hésitez pas à réagir.
Ah, pardon, non, j'ai parlé avec les micros coupés. Ah. Et c'est pas la première fois qu'on parle de la Laudato Si, on fait cette introduction au niveau de la doctrine de l'Église et la comparaison avec les encycliques qu'il avait avant. Et qu'est-ce qu'il avait avant encore? L'Église, Rerum Novarum, parce que moi j'ai étudié dans une école dominicaine, je me rappelle qu'eux, ils avaient déjà parlé, ils nous avaient fait un peu suivre cette doctrine sociale. Mm-hmm. Et on n'a jamais compris qu'est-ce qu'il passait avant. L'Église, il était beaucoup plus éloigné de la société, c'était beaucoup plus formel.
Alors, en fait, les textes, on n'a pas entendu Rerum Novarum pour avoir une vision sur l'économie. Hein. Ce qu'on appelle le magistère dans l'Église, c'est-à-dire la réflexion des théologiens, hein, des papes, des théologiens, des chercheurs, hein, on produit un certain nombre d'œuvres qui parlent aussi de ces aspects économiques. Je dirais qu'il y a aussi les grands saints. Les grands saints ont vécu dans leur monde et ont pu prendre aussi position sur l'économie. Je pense par exemple à Saint François. Saint François d'Assise, dans sa conception de l'homme dans la création, et il le vivait vraiment, c'est le premier des écologistes. Hein, cette correspondance, ce dialogue qu'il avait avec le monde végétal, le monde minéral, le monde animal, ce respect de la création quand il s'adressait au soleil, vous savez, le cantique de la création, etc. On est en plein là-dedans, dans une réflexion à la fois, mais on n'appelait pas ça l'écologie à l'époque, mais on est en plein sur la réflexion de la place, je dirais même de la trace de l'homme dans la création. Hein. Comment prendre sa place, comment, tout en respectant la création. Quand on a un Saint Martin qui partage son manteau pour aller couvrir et protéger un pauvre, on a aussi une réflexion sur l'exercice de la charité. Les nombreux hospices qui s'étaient développés, toutes les sociétés de secours mutuels qui s'étaient développées au Moyen-Âge ont alimenté aussi cette pensée sociale. Donc on peut pas, il ne faut pas penser que tout est né comme ça d'un seul coup au XIXe siècle. Ce qui est un peu nouveau dans la pensée de Léon XIII, c'est qu'il a voulu en faire un texte uniquement centré là-dessus et en partant des réalités du moment avec une vision très... Enfin, c'était un texte plus économique que théologique. Enfin, c'est un texte où il dénonçait pas mal de choses, quoi. Alors, l'Église n'était pas tellement habituée à ça parce que au XIXe siècle, dans certains pays, l'Église avait quand même fait une certaine forme d'alliance avec les pouvoirs politiques. Hein. Ce n'est pas nouveau dans l'histoire de l'Église. Donc là, le pape, quand même, recadre un petit peu les choses, hein, et exprime qu'on ne peut pas être de bons chrétiens, aller à la messe, etc., et puis ne pas se préoccuper des enfants qui travaillent 10 heures par jour dans les mines dès l'âge de 5 ans. Hein. Voilà. Donc, il pointe du doigt ce genre d'écart qui étaient des écarts de la société. Moi, j'ai relu récemment les Misérables là, de Victor Hugo, et il y a des descriptions assez saisissantes du monde des pauvres à Paris. Hein. Donc, dans ce Paris qu'on connaît maintenant et qui est une ville... qui était un peu une ville-musée souvent, quand Hugo décrit les quartiers pauvres de Paris, c'est assez saisissant, c'est pas si vieux que ça. Hein. Voilà, en nous montrant, il décrit des enfants qui meurent de faim ou qui sont sous-alimentés, qui sont obligés de voler pour se nourrir, etc. Donc, la question sociale est une question qui était d'autant plus forte que au XIXe siècle, les villes se sont mises à enfler dans leur démographie avec donc des populations très, très marginales, très pauvres et de la main-d'œuvre bon marché. C'était pareil en Angleterre, enfin dans tous les pays industriels. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question. Dans l'Église, en fait, les textes qui sont parus souvent sont le fruit d'une maturation très, très lente de plusieurs, hein, de plusieurs penseurs, pas que des penseurs d'ailleurs. Hein. Je crois que les saints nous informent aussi, nous enseignent aussi dans leur façon de vivre sur les aspects qui sont développés. C'est tout ce qu'on appelle la tradition de l'Église, hein, depuis Jésus, hein, depuis l'Évangile.
Merci.
Alors là, je refais passer ça, oui. Hop. Alors, on va parler de... cette notion de nature et culture. Ça, c'est très important. Vous avez tous peut-être fait de la philosophie quand vous étiez en terminale, et vous vous souvenez qu'on avait en général un cours consacré à la nature et à la culture. Et dans ce cours sur la nature et culture, eh bien, les deux éléments étaient opposés. D'un côté, le monde de la nature, avec donc les animaux, le minéral, toute la terre, enfin tout ce qui nous est donné. Et de l'autre, l'homme, la culture, l'homme étant en fait un animal qui a pu s'abstraire hein, de la nature. Et donc, l'homme était opposé à la nature, l'homme n'était que culture. C'est une façon de présenter les choses. Ce que nous dit le pape dans Laudato Si, c'est que l'homme est aussi nature. Et ça, c'est nouveau dans la pensée de l'Église. Enfin, c'est pas nouveau dans la pensée de l'Église, mais souvent l'Église quand même avait s'était accommodée de rattacher l'homme à la culture, au sens de l'homme étant doué d'intelligence, l'homme étant capable de pouvoir entrer en relation avec Dieu. Alors que la nature, par définition, est inerte. Voilà. Eh bien, ce que nous dit le pape François, c'est que il y a un crime contre la nature qui est un péché contre Dieu. Voilà. Abîmer la nature est un péché contre Dieu. Alors, qu'on se comprenne bien, il ne s'agit pas non plus de renoncer à utiliser la nature, parce qu'on a besoin, bien évidemment, de vivre, et donc on peut cultiver, on peut exploiter certaines richesses de la nature. Mais quand on détruit la nature systématiquement, quand on en use jusqu'à l'épuiser, eh bien il y a un crime, et ce crime est un péché. Et ça, le pape est très catégorique là-dessus, et ça c'est assez nouveau dans l'encyclique. Et c'est suivi d'un appel justement à rechercher un développement intégrale. Vous vous souvenez, on avait dit que ce développement intégral, c'était une notion qui avait été inaugurée par Paul VI. Et à partir du moment où on recherche ce développement intégral, le pape promeut la notion d'écologie intégrale. Alors ça, c'est complètement nouveau, l'écologie intégrale. Et ça, alors, ça a beaucoup surpris nos amis les Verts, ou nos amis, enfin tous les mouvements écolos de nos pays, qui ne s'attendaient pas du tout à ce que l'Église prenne position sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que l'écologie intégrale, vous allez me dire? C'est en fait une réponse à deux impasses. La première impasse, c'est de croire que le progrès technologique permet de résoudre le problème écologique. Ça, vous l'avez sans doute tous entendu déjà plusieurs fois. C'est une croyance un peu naïve que la technologie, la science, nous permettra de venir à bout des problèmes de pollution. Que si un jour il n'y a plus de charbon ou il n'y a plus de pétrole, ben, ce n'est pas grave parce que la science nous aura fait découvrir une autre source d'énergie. Si on n'a plus de forêt ou si on n'a plus assez d'animaux pour nourrir les hommes, eh bien, on inventera de la viande synthétique ou on inventera des plantes artificielles, etc. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué dans la science-fiction, je pense à certains films qui font le succès du box-office américain, on a souvent une situation où la Terre devient invivable, irrespirable, et donc l'homme va se sortir de son milieu naturel pour aller habiter d'autres planètes. Bon, alors c'est un peu un vieux rêve de l'humanité, mais ça nous dit bien quelque chose de cette foi totale dans le progrès. C'est-à-dire qu'après tout, si la Terre est abîmée, eh bien on ira ailleurs. Donc, vous voyez bien l'impasse hein, de cette position. Non, le progrès technologique ne permet pas de résoudre toutes les destructions et de trouver une solution à toutes les destructions massives que nous opérons en ce moment sur la Terre. À l'inverse, à l'opposé, il y a une autre impasse. Et cette impasse, elle est un peu le propre de certains mouvements très fondamentalistes, un peu californiens. C'est de montrer que l'homme est une menace pour la Terre. L'homme est un prédateur pour les espèces animales. Et qu'en gros, s'il n'y avait plus d'hommes sur la Terre, ce serait mieux, le monde animal serait tranquille. Alors vous avez sûrement rencontré des gens qui vous disent ça. Alors évidemment, ça c'est une impasse, et en tout cas, c'est complètement contraire à la conception chrétienne de l'homme, hein, puisque l'homme a été créé par Dieu dans la création. Et donc l'homme fait partie du projet de Dieu dans la création, donc il n'est pas question de penser qu'il puisse être une menace pour la création. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir en tant que chrétien, parce que cette idée de l'homme menace pour la terre est une idée authentiquement réactionnaire, en fait, hein, qui vient quasiment remettre en cause le vivant humain sur la planète. Alors, j'ai un problème pour passer sur le document précédent. Ah. Alors, attendez, je suis coincé dans mon document, donc je vais sortir de mon partage. Ah, voilà, pardon. Voilà. Là, je voulais vous mettre, je vous ai mis l'extrait de Laudato Si, c'est le paragraphe numéro 13. Et voilà, voilà ce qu'écrit le pape. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. Alors, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'était une vision foncièrement optimiste, hein. Nous savons que les choses peuvent changer. Le pape n'en reste pas sur un constat de pessimisme, sur un constat d'échec, sur un constat de destruction. Non, il y a une union possible de toute la famille humaine pour sauver la maison commune dans ce qu'il appelle ce développement intégral, ce développement durable. Là interviennent trois thèmes principaux de l'encyclique. Alors, ces thèmes, vous les reverrez avec le père Clazen, mais je vous les cite rapidement parce que c'est vraiment ce qui charpente toute la structure de l'encyclique Laudato Si. Ce sont les thèmes suivants. Tout est lié, tout est donné, tout est fragile. Tout est lié d'abord. Tout est lié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain et le naturel sont interdépendants. Vous voyez, il n'y a plus cette opposition nature-culture. Et si l'humain et le naturel sont indépendants, le plus important, c'est la dimension relationnelle. Voyez, nous sommes appelés, nous les hommes de bonne volonté, les chrétiens, à savourer, à goûter cette dimension relationnelle entre la nature et l'homme, ou entre les hommes, entre les peuples. Tout est lié. Ce que le pape nous dit, ce qu'il écrit, il nous faut écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Vous voyez ? Alors ça, c'est tout à fait nouveau. La clameur de la terre qui crie parce qu'elle est saccagée, hein, par certaines exploitations, par certaines surexploitations industrielles ou agricoles. Donc cette clameur de la terre, on voit bien ce que ça veut dire. Je pense par exemple à la forêt amazonienne en ce moment. Oui, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, non ? Non, je pensais que quelqu'un voulait prendre la parole. Donc oui, je vous citais l'exemple de la forêt amazonienne, mais il n'y a pas que cet exemple. On comprend la clameur, hein, la clameur de la terre. Et la clameur des pauvres. Alors ça, c'est nouveau aussi, hein, de faire intervenir le problème social dans la dimension écologique. On ne peut pas s'occuper d'écologie, on ne peut pas se préoccuper d'écologie si on ne s'intéresse pas à la question sociale. Alors, vous voyez, ça vise quand même la tentation que pourraient avoir certains de se constituer des petites bulles où on serait très écolo, où on trierait nos déchets. Ce serait des petites bulles pour des gens très aisés, très riches, complètement coupés du monde, alors que le reste du monde serait en train de ne pas avoir accès aux biens les plus fondamentaux. Je pense par exemple à l'accès à l'eau. Hein. L'accès à l'eau, qui est un accès qui devrait être gratuit et possible pour toute l'humanité, et c'est loin d'être le cas actuellement, hein, eh bien voilà, tout est lié. La charité et l'écologie et le développement durable. Donc ça, c'est vraiment nouveau, hein, dans la pensée du pape, et ça nous permet quand même d'avoir une clé de compréhension de l'économie, si nous voulons un peu aller plus avant. Tout est lié, tout est donné. Tout est donné, c'est-à-dire que oui, la terre ne nous appartient pas. Alors, l'Église n'est pas contre le droit de propriété, et dans la doctrine sociale de l'Église, il y a pas mal de réflexions sur la propriété, mais la propriété ne peut pas, elle s'arrête à un certain endroit, à un certain moment. On ne peut pas être propriétaire de tout. Il faut changer de lien avec la nature. Nous ne sommes pas de bons gérants de la nature. Vous voyez, l'idée est souvent qu'on nous a présentée comme l'homme gérant de la création confiée par Dieu. Le pape nous dit, oui, mais attention, la nature ne doit pas être instrumentalisée par l'homme. La nature n'est pas au service de l'homme, même si effectivement l'homme va utiliser la nature, hein. Il va être en interaction avec la création, mais il n'a, il n'a pas vocation à faire de la nature son propre instrument. Alors, vous voyez, ça c'est intéressant aussi parce que quand on pense, par exemple, dans les domaines éthiques de tout ce qui est la biologie moderne, l'instrumentalisation du vivant, hein, voilà, bah, ça c'est effectivement condamné par l'Église à partir aussi de ce même principe. Tout est donné par Dieu. Et quand on dit tout est donné, c'est aussi le principe de gratuité. Il y a une forme de gratuité dans le rapport au monde que nous avons, nous les hommes, dans la création. Alors, je vous donne un exemple. Dans un univers où tout est marchand, où tout se paye, eh bien, on se rend compte qu'il y a des ressources qui sont données gratuitement. Par exemple, si vous payez un billet d'avion pour aller vous déplacer, je sais pas où, au Japon, vous allez payer une compagnie aérienne, mais l'avion ne peut pas fonctionner si l'air n'est pas aspiré par les réacteurs et si donc cet air qui est commun à toute la Terre n'est pas utilisé gratuitement par le moteur du réacteur. Bon. Donc il y a une gratuité constitutive en fait hein, de notre présence sur la Terre. Et ça, c'est intéressant parce qu'on retrouvera ça dans les phénomènes économiques. Le pape fera des propositions sur la façon de réintroduire de la gratuité, même dans les mécanismes financiers. Enfin, tout est fragile. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, cette fragilité, elle est présentée dans l'encyclique comme une chance. Et en effet, la fragilité est une chance pour inventer une nouvelle manière de vivre. Voilà. Et pour en fait développer ce qui est le propre de l'homme, c'est-à-dire notre créativité. Nous avons été créés à l'image de Dieu et c'est pour cela que nous sommes capables de créer. Et notre créativité, elle est questionnée, elle est mise à l'épreuve pour que nous puissions faire de cette fragilité une force, c'est-à-dire réparer hein, le tissu de la terre abîmée. Peut-être que vous avez été sensible là, pendant cette crise du Covid par la foule d'initiatives. Hein. Les gens ont été très féconds hein, dans les initiatives pour fabriquer des masques lorsqu'il en manquait ou pour promouvoir des initiatives de solidarité, etc. Il y a une vraie inventivité hein, qui s'est déployée à tous les niveaux, que ce soit les enfants, les plus vieux, tous les mondes, toutes les parties de la société. Voilà. Et pourtant, à un moment où tout nous semblait fragile du fait de la pandémie. Donc, ce « tout est fragile » du pape, il est à tenir. Il est une façon aussi de dialoguer avec les peuples, de dialoguer avec le monde. Voilà. Alors, comme la visioconférence est quelque chose qui demande pas mal de concentration, je suppose que vous devez avoir envie d'aller boire un petit coup ou de faire une petite interruption. Donc, je vous propose qu'on fasse une petite pause. Hein, et puis, on reprend. Alors, il est 21h03. Je vous propose qu'on se retrouve à 21h10 devant nos écrans, à moins que vous ayez peut-être une question à poser à ce moment de l'exposé ou on peut la poser après la reprise. Voilà, à tout à l'heure, donc à 21h10. Alors le texte que je vous projette là en haut à droite, alors pour moi il est un peu caché. Quelqu'un pourrait le lire à haute voix pour tout le monde?
Le Covid-19 a clairement mis en évidence la profonde interconnexion et l'interdépendance qui existent entre nous tous. Pour commencer à imaginer un monde post-pandémique, nous devons tout d'abord adopter une approche intégrale.
Voilà, ça c'est un texte qui est paru dimanche, là, donc tout récemment, qui a effectivement réagi à la pandémie. Donc, c'est le dicaster, je ne sais plus de quel dicaster ce texte est issu. Il a été repris là dans la croix aujourd'hui. Et ça montre bien donc, cette idée d'interconnexion, d'interdépendance et de l'approche intégrale. Donc, à la fois écologique, économique, sociale, je dirais même spirituelle, hein, puisque l'enjeu est aussi l'enjeu spirituel. Voilà. Donc ça, c'est pour illustrer le propos. Alors, on va poursuivre un peu plus avant sur la finance, puisque un des buts de ce cours, c'est de mettre en relation le Laudato Si, la préservation de l'environnement, l'environnement durable et la finance. Je suppose que vous avez tous joué à ce jeu, que vous jouez peut-être encore avec vos enfants, vos petits-enfants, etc. Le Monopoly est un jeu qui a bercé notre enfance. Alors, j'ai une question à vous poser et je vous invite à y répondre. Quel est le but du jeu au Monopoly? Qu'est-ce qu'on cherche à faire au Monopoly? Alors, allez-y, on échange.
S'enrichir.
S'enrichir, oui.
On cherche à ruiner les autres.
Ah oui, c'est Alix qui dit ça?
Oui.
Oui, on cherche à ruiner les autres. Eh bien oui, oui.
Je ne joue pas contre elle.
Est-ce que vous pourriez expliquer un peu ce que vous voulez dire là-dedans?
Le jeu s'arrête soit quand on en a assez, soit quand globalement il n'y en a plus qu'un qui a de l'argent, qui possède tous les terrains et que les autres ont fait faillite.
Oui, tout à fait. Donc le gagnant, il gagne parce que les autres ont perdu.
Exactement.
Oui. Ah oui, ça c'est quand même curieux que ce jeu est un jeu qu'on développe et qu'on propose à nos enfants, à nos adolescents, pour leur apprendre en fait comment devenir riche au détriment des autres, hein, symboliquement. Ok. Quelles sont les autres remarques qu'on pourrait faire sur le but de ce jeu?
Oui, c'est vrai que c'est impossible de jouer à partager. Si on essaie de partager, de toute façon, on va perdre tout l'argent. C'est vrai que j'ai vu comme ça qu'il cherche à vraiment s'enrichir en détriment des autres.
Oui. Elle est très, très. Comment on s'enrichit au Monopoly?
En achetant des hôtels.
Et en fait, il y a ça. Et après, le fait que les gens passent chez nous et qu'ils payent des taxes.
Yes.
Ouais. Pardon, excusez-moi. Mais oui. C'est ça.
Oui. Ce n'est pas des taxes, ce sont des loyers.
Oui, mais c'est des choses qu'on a payées. On a acheté des hôtels, on a acheté des rues, on a dépensé de l'argent.
Oui.
Ensuite, après.
On a investi. Du coup, ça rapporte.
Ça rapporte.
Voilà, c'est ça. On a fait un investissement et on attend un rendement de ces investissements. Donc, on est vraiment là en plein cœur de la finance. D'ailleurs, là, c'est au bon sens du terme. On investit pour avoir un rendement. Après tout, c'est… Voilà.
C'est curieux qu'il y ait une notion des récompenses. Comme on a risqué, on a acheté, on a investi, on mérite de gagner. Ouais. Et ça nous semble positif.
Oui. Qu'est-ce qui nous rend le jeu, somme toute, quand même sympathique quand on y joue au Monopoly?
C'est qu'il y a il y a aussi des opportunités, il y a des chances. Il y a des chances.
On gagne de l'argent, donc on est content quand il y en a un qui s'arrête chez nous et qui nous paye.
Oui. Il a les petites cartes au milieu, qui c'est la chance, ou il y a une notion d'aléatoire aussi.
Oui,
oui. Et du risque.
Oui. Quelle est la conséquence de l'aléatoire au Monopoly?
On peut aller en prison.
Oui.
ce n'est pas forcément.
Dans la finance aussi.
Oui, ce n'est pas forcément les plus doués qui gagnent. Il y a un facteur d'hasard qui s'invite à tout le monde à entrer dans la finance parce que j'ai pas forcément besoin d'être très très doué. Je peux avoir un facteur aléatoire, oui.
Oui, un facteur chance, oui, tout à fait.
La justice.
Ah, j'ai pas entendu, vous disiez?
Il y a une injustice dans l'aléatoire.
Oui. Enfin, l'aléatoire se situe, oui, au-delà même de la notion de justice. Oui, tout à fait.
Juste une chose positive, c'est que quand on est petit, en fait, on nous apprend à pour la monnaie, tout ça, c'est bien, ça fait faire des calculs. Mais c'était juste le petit truc positif. Je coupe mon micro.
Non, mais il n'y a pas que. C'est un bon jeu, le Monopoly. Je ne suis pas en train de critiquer le Monopoly, mais je vous dis ça parce que on retrouve beaucoup de choses dans ce qu'on va retrouver tout à l'heure dans la finance. Il y a un élément important aussi, c'est qu'au Monopoly, on peut être très riche et en deux tours être très pauvre. Et à l'inverse, on peut n'en avoir aucune maison, aucun hôtel et brusquement faire fortune. Et ça, c'est un des ressorts du jeu. Ce qui nous plaît dans ce jeu-là, c'est ça, c'est que les changements de fortune sont rapides. Retenez ça, parce qu'on verra que dans la finance, on est quelquefois dans ce paradigme-là, le paradigme du jeu et du développement de la richesse facile, mais aussi de l'écroulement rapide.
Mais voilà. Quand on est pauvre, on a du mal à devenir riche quand même. Quand on commence pauvre et qu'on est pauvre, c'est rare qu'on finisse bien quand même.
Oui, mais on peut quand même quelquefois passer par la banque. Il y a des cartes qu'on touche qui peuvent nous…
Voilà. Ça dépend à quel moment. Hein.
Oui. Non, on ne parle pas de tricher. Après, vous voyez bien que la richesse au début de la partie est la même qu'à la fin. C'est-à-dire qu'il y a une somme de richesse qui est composée des hôtels, des maisons, des billets de banque, etc. Et qu'à la fin, la richesse, elle est répartie différemment, mais elle n'a pas augmenté. Voilà. On est dans un monde clos où la richesse, elle est contenue, elle ne bouge pas, elle n'évolue pas. C'est simplement sa répartition qui va changer. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est pour introduire un petit peu justement le sens profond du mot finance et de son développement dans l'histoire. Alors, la première étymologie du mot finance, c'est une étymologie latine, c'est le mot finis. Et finis en latin, ça signifie le terme. Le terme, c'est-à-dire le moment où l'on doit payer. Au XIIIe siècle, en français, le verbe finer, donc F-I-N-E-R, existait, et ça signifiait littéralement finer une transaction, c'est-à-dire la payer. Pour ceux qui connaissent l'anglais, vous savez qu'on dit pour une amende, une contravention en anglais, on dit que c'est une fine, F-I-N-E, c'est la même racine, c'est le fait de payer. Et par la suite, le mot a désigné les ressources financières, et à partir du XVIe siècle, plus généralement, toutes les affaires d'argent. Donc, quand on parlait des finances, c'était les affaires d'argent. Et en France, au XVe siècle, on a vu apparaître une certaine catégorie de gens qu'on appelait les gens des finances. Les gens des finances, c'était les fonctionnaires nommés par le roi, chargés de gérer l'argent issu des privilèges, chargés de gérer la collecte des impôts, etc. Les gens des finances. C'était déjà un peu l'embryon d'une administration des finances. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la naissance du crédit ne date pas d'hier. On a retrouvé sur des tablettes des éléments nous permettant de penser qu'en Mésopotamie, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait déjà une monnaie et que la monnaie servait aussi à des paiements d'intérêt sur des récoltes, par exemple, sur des biens, des ressources naturelles. Donc, la naissance du crédit, quelque chose de très ancien. Mais pour faire, là, je brosse vraiment une histoire à très, très grandes enjambées. Pour faire très simple, retenons quand même que la naissance de la finance moderne, c'est l'Italie, et c'est le XIIIe siècle en Italie. Et grâce à un homme en particulier, qui s'appelait Fibonacci, vous avez son portrait, c'était un mathématicien qui vivait à Pise, et son père était responsable d'un bureau de douane en Algérie. Et donc, il avait vécu en Algérie et il avait été en contact donc avec les notions arabes et indiennes du système décimal, des fractions et du zéro. Le zéro qui a été inventé, non pas par les Arabes, mais par les Indiens, mais qui a été importé en Europe par les Arabes. Donc, avec le système décimal, grâce au zéro et les fractions, eh bien, la mathématique a pu progresser, a pu faire un pas de géant. Il avait découvert, il avait un peu formalisé la valeur actualisée. Il avait écrit un livre qui s'appelait « Le Liber Abaci » en 1202. Et dans ce livre, il se livrait à certains petits calculs mathématiques et économiques. Alors, par exemple, on le cite souvent, on disait que la suite Fibonacci, c'est la suite sur les portées de lapin, les portées qui doublent une suite de chiffres avec une portée qui double chaque jour du nombre de lapins, et ça permet de calculer à la fin le nombre de lapins qui sont nés. Au même moment, au XIIIe siècle en Italie, est née ce qu'on a appelé la comptabilité en partie double. Vous savez, c'est l'actif passif. Bon, ça nous paraît évident maintenant dans le monde économique, mais ça n'existait pas à l'époque. Et donc, la comptabilité en partie double a fait faire un grand pas à l'économie et notamment à la finance. Ça a été lié aussi à l'invention de la lettre de change. La lettre de change, c'est quoi ? C'est, au lieu de se trimballer quand on voyage, par exemple, entre Venise et Florence avec de l'argent dans ses poches, au risque de se faire détrousser par les bandits, à l'époque les routes n'étaient pas sûres, eh bien on pouvait emporter une lettre de change, qui était donc un papier avec une reconnaissance de dette, que l'on pouvait ensuite échanger contre de l'argent à la banque désignée lorsqu'on arrivait à Florence. Donc on avait là les moyens de faire transiter de l'argent par le biais des banques, par le biais des intermédiaires, en toute sécurité. Et vous voyez que la lettre de change, c'est déjà une forme de finance parce qu'on peut ce qu'on appelait l'escompter, donc la signer, l'endosser et la transformer en monnaie sonnante et trébuchante. Ces lettres de change sont d'autant plus importantes que le commerce s'est accru au XIIe siècle entre les grandes villes européennes. Alors, je vous ai cité Venise. Venise, c'était la ville qui était le débouché naturel de la route de la soie, la route venue de l'Orient, de Chine. Et puis qui commerçait aussi avec les villes du Nord, les villes hanséatiques, les villes où on produisait le drap, Amsterdam, Lübeck, etc. Donc toute cette grande route qui allait du nord de l'Europe jusqu'à l'Orient. Et donc les villes italiennes étaient sur ce chemin et le commerce entre ces villes a pu être développé et a développé justement ce type d'instruments financiers que sont la lettre de change. C'était un peu l'ancêtre du chèque, la lettre de change. Alors, il va falloir attendre le XIVe siècle pour que les banquiers soient vraiment des banquiers à part entière, avec une famille qui est la famille Médicis, et je vous ai mis Côme l'Ancien. Côme l'Ancien, c'est le fondateur de la dynastie, j'allais dire, politique des Médicis. Et les Médicis, qui auparavant étaient des condottières, un peu des bandits, enfin ils n'avaient pas une super réputation, sont devenus des courtiers en devises, puisque toutes les villes italiennes avaient leur propre devise. La devise de Sienne n'était pas la devise de Florence, qui n'était pas la devise de Milan, qui n'était pas la devise de Rome, etc., puisque les États étaient divisés. Et donc les Médicis sont devenus courtiers en devises et ils faisaient leurs affaires en s'installant dans la rue sur un banc. Et le fait qu'ils soient sur un banc, ça a donné le terme banquier. Vous voyez, le mot banque, banquier, ça vient du mot banc. Et d'ailleurs, lorsqu'un banquier faisait de mauvaises affaires ou lorsqu'il avait triché, on cassait son banc, on rompait son banc et il faisait banqueroute, banqueruptus. Vous voyez, c'est l'étymologie du mot banqueroute. Voilà. Et donc, c'était fait dehors parce que ça voulait dire aussi que, vous voyez, déjà, il y avait l'idée de la transparence, que les affaires d'argent pouvaient être vues, au-dessus de tout le monde, c'était ouvert, voilà, c'était pour appâter le chaland, mais il y avait aussi déjà une notion de transparence de la transaction financière. Au même moment, enfin un petit peu après, les grandes découvertes ont développé la finance. Alors elles ont développé sous deux aspects pour financer les grandes découvertes, comme les risques encourus par les navires étaient très forts. Et donc, il y avait de forts risques que les navires n'arrivent jamais à destination. Eh bien, les propriétaires ont fait appel à des capitaux, des investisseurs qui venaient miser en fait une certaine somme d'argent, mais ont divisé le risque avec plusieurs investisseurs pour armer un bateau, le construire, le charger de marchandises. Et puis, si le bateau arrivait à bon port et s'il revenait ensuite chargé de richesses, eh bien, la richesse était divisée entre les investisseurs. Donc, l'appel à l'investissement, à la finance en fait, a été renforcé au moment des grandes découvertes. Et puis à l'inverse, l'afflux d'or issu des Antilles et des Amériques, l'or est donc le métal précieux par excellence, est venu inonder l'Europe et notamment les pays comme l'Espagne et le Portugal, mais pas que. Et bien cet afflux d'or a permis aussi de décupler les capacités d'investissement des riches, de ceux qui en bénéficiaient. On fait un saut dans l'histoire et on arrive maintenant au XIXe siècle avec la révolution industrielle. Eh bien, on a une accumulation du capital et c'est cette accumulation du capital alliée à bien sûr au capital travail qui va permettre les conditions du décollage industriel, l'achat de machines, la découverte des sources d'énergie, le développement de la machine à vapeur, etc. Avec le 19e siècle, on découvre, elles existaient déjà, mais se développent beaucoup les bourses des valeurs, hein, européennes, à Londres, à Paris, à Amsterdam, puis ensuite aux États-Unis, bien sûr. Donc, ces bourses qui sont des marchés qui se confrontent, hein, où se confrontent l'offre et la demande, et qui sont en interaction entre elles. Au XXe siècle, on peut dire qu'il y a une véritable émergence de l'industrie financière. D'ailleurs, le mot est relativement récent, le mot « industrie financière », et que cette émergence date en fait de l'après-guerre, de la reconstruction, de la libéralisation des marchés.
Quoi, Théo ?
Et de la suprématie de la monnaie dollar. Alors, cette suprématie du dollar, elle est liée aussi à un fait, c'est que les différents pays ne pouvaient plus soutenir la convertibilité de leur monnaie par rapport à l'or. Songez à l'Europe à la sortie de la guerre qui était ruinée. Donc, il n'était pas question de maintenir une parité du franc ou du marque par rapport à l'or. Seul le dollar pouvait se permettre cela parce que le dollar était la monnaie de la principale économie mondiale. Et donc, l'abandon de l'étalon or a multiplié aussi la finance. Et les États-Unis eux-mêmes, en 72, ont sonné le glas de l'étalon or, puisqu'ils ont déconnecté le dollar de la valeur de l'or. Dans les années 1980, il y a eu un mouvement économique et politique, hein, incarné en Europe par Thatcher et en Amérique par Reagan, de dérégulation du marché. On a voulu volontairement déréguler le marché pour le rendre plus rapide, plus réactif, plus transparent aussi. Et donc, les marchés se sont financiarisés avec notamment l'émergence de nouveaux intermédiaires financiers. Il n'y avait pas que les banques qui pouvaient intervenir à partir de cette période-là. Il y avait des fonds d'investissement qui sont, on parle même de fonds, quelquefois de fonds vautours, de fonds qui cherchent les bonnes opérations, qui sont opportunistes et qui entraient en fait dans cet objectif de dérégulation du marché qui était une volonté politique en fait. Hein, on appliquait un programme économique un peu particulier. De nos jours, on peut dire que la finance consiste à fournir l'argent nécessaire à la réalisation d'une opération économique. Par exemple, acheter une usine, ou acheter un avion, ou acheter un champ, etc. Ou construire quelque chose, acheter une entreprise. Quand on recherche un financement de nos jours, en fait, on peut avoir deux types d'objectifs. Et ces deux types d'objectifs dépendent du volume initial du capital. On peut investir ce qu'on appelle à capital restreint. Alors, je m'explique. On investit à capital restreint, c'est-à-dire qu'on cherche à obtenir des capitaux nécessaires et suffisants pour développer une activité. Alors, je prends un exemple. Vous voulez acheter un champ de blé pour le cultiver, pour le développer. Eh bien, si ce champ vaut 100 euros par exemple, eh bien vous allez chercher 100 euros de financement, vous allez chercher les capitaux qui vont vous permettre de développer cette activité. Le deuxième objectif de la finance, c'est ce qu'on appelle la finance avec un niveau de capital avéré. Et ça, c'est à l'inverse, c'est l'investisseur qui va avoir pour objectif de trouver le placement le mieux rémunéré, le plus pertinent, le plus performant et le moins risqué. Donc, vous voyez, on allie la performance et la sécurité. Sachant que là est introduite l'idée du risque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de finance sans risque, c'est-à-dire que la plus-value va venir aussi du fait du risque encouru. Et vous le savez bien, par exemple, quand vous investissez sur des actions, vous prenez un risque plus important, mais votre espoir de gain est plus important que si vous investissez sur des obligations d'État. Donc, la notion de risque, elle est intrinsèque là au calcul de l'investisseur financier. Dans cet objectif de niveau de capital avéré, eh bien, il y a un facteur considérable et complètement fondamental à prendre en compte, c'est le facteur temps. Il n'y a pas de finance sans écoulement du temps. Le temps fait partie du mécanisme financier. D'où la devise du capitalisme, vous savez, le temps, c'est de l'argent. Bon, on verra d'ailleurs que ce n'est pas tout à fait vrai, mais bon, ça a longtemps été comme une vulgate du capitalisme, le temps, c'est de l'argent. Ça nous dit bien quand même que dans la finance, eh bien, le temps est questionné et la valeur du temps est questionnée. Un mot aussi sur le lien entre communication et finance. Plus la vitesse de communication augmente, plus la finance se complexifie. Voyez-vous, au moment de l'émergence de la machine à vapeur au XIXe siècle, eh bien, la finance est devenue plus forte, s'est charpentée, a permis le développement du capitalisme, parce que les échanges aussi étaient plus rapides, la communication était plus rapide entre les villes, entre les communes, entre les marchés, en fait, hein, des matières premières ou des sources d'énergie. L'avènement du télégraphe aussi, par exemple, a permis la fluidité des informations entre les bourses mondiales. Par exemple, la bourse de Paris, par le télégraphe, était au courant de ce qui se passait à la bourse de New York ou à la bourse de Londres. Donc, les marchés pouvaient être au courant, ce qui fait que, d'une certaine manière, l'équilibre entre les marchés pouvait arriver plus facilement. Un marché ne pouvait pas être complètement déconnecté d'un autre marché. D'ailleurs, un des participants ce matin, cet après-midi au cours, me faisait remarquer que ce qu'on a appelé la finance haute fréquence, vous savez, ces finances faites avec les ordinateurs à notre époque, permettaient une sorte d'équilibre instantané d'un prix, hein, entre toutes les places financières mondiales. Donc, c'est plutôt un atout, hein, et un acquis là, de la finance par rapport à l'équilibre du marché. Cette finance haute fréquence, vous savez, elle est liée au développement de l'informatique, donc elle circule à 300 000 km/s, à la vitesse de la lumière. Je voulais insister par exemple sur le rôle de Londres, la place de Londres. Pourquoi Londres est une place financière si importante dans le monde? C'est que Londres est située non pas à mi-chemin, mais n'est pas située complètement dans l'Europe continentale et fait le lien entre les États-Unis et l'Europe continentale. Ce qui veut dire que les machines de haute fréquence qui sont installées à Londres peuvent réagir un millième de seconde avant les machines européennes ou les machines américaines lorsqu'elles se communiquent des informations. Et Londres a utilisé ce millième de seconde pour développer une activité financière qui est l'une des premières, qui fait de Londres une des premières places financières mondiales. Donc, l'accélération, hein, liée à la technologie, rend de plus en plus complexes les mécanismes financiers. Ça va, je vous noie pas sous une foule d'informations. Alors, je voudrais vous présenter, parce que je me suis dit qu'un cours, après tout, sur Laudato Si, sur la finance, sur la dimension spirituelle, devait aussi inclure quelques notions appliquées de finance, parce que souvent les chrétiens, on a du mal un petit peu on n'a pas tellement nos marques dans le monde de la finance, on ne sait pas trop parler d'argent et quelquefois on ne comprend pas les notions les plus évidentes de finance. Donc je voulais vous présenter quelques notions, alors ça sera très succinct évidemment. N'hésitez pas à m'interrompre si vous ne comprenez pas, je reprendrai l'explication. Ce n'est pas forcément évident, donc c'est pour ça que peut-être pour certains, ça sera, j'enfoncerai des portes ouvertes, je m'en excuse, mais je crois que c'est pas mal de se faire un petit rappel. Alors, première notion de finance qui est absolument fondamentale, c'est ce qu'on appelle la valeur actuelle et le calcul d'actualisation. Qu'est-ce que c'est que la valeur actuelle? C'est le principe qu'on préfère toujours le présent. Alors, vous voyez, en matière d'argent, c'est le présent qui compte. C'est un peu étonnant, ça, parce que dans la vie, dans notre vie personnelle, on peut quelquefois préférer le futur pour le présent. Par exemple, je pense à des fiancés qui ont le projet de se marier. Ils attendent le mariage, ils attendent ce sacrement qu'ils vont recevoir. Et donc, ils se projettent, hein, dans un futur qui leur semble plus riche, plus épanouissant que ce qu'ils vivent avant leur mariage. Je prends cet exemple, mais c'est pour montrer que cette préférence pour le présent, qui nous est présentée comme quasiment un axiome de la finance, n'a rien d'évident en fait dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'homme, dans le domaine de la vie. Alors pourquoi le présent est-il préférable? C'est que je préfère avoir 1 euro tout de suite que espérer avoir 1 euro dans un an. Vous voyez, c'est ça le principe. Voilà. Si vous avez 1 euro tout de suite dans votre poche, vous êtes plus heureux que si vous avez 1 euro dans un an, que si on vous promet 1 euro dans un an. Voilà. Alors, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas additionner l'euro que vous avez dans votre poche avec l'euro que vous allez toucher dans un an. C'est 1 et 1 ne font pas 2. L'euro que vous allez toucher dans un an, vous allez rectifier sa valeur. Vous allez le pondérer sa valeur pour le ramener au présent. Et ramener l'euro que vous touchez dans un an au présent, c'est faire un calcul d'actualisation. Vous allez actualiser la valeur sur le présent. Alors, vous allez me dire, comment je vais actualiser la valeur de l'euro que je vais toucher dans un an? Eh bien, je vais l'actualiser en appliquant un taux d'intérêt, un taux d'actualisation. Alors, quand on était dans les périodes de très forte inflation dans les années 1990, ça paraissait évident de penser que l'euro dans un an n'aurait plus la même valeur, enfin à l'époque c'était le franc d'ailleurs, que le franc dans un an n'aurait plus la même valeur que le franc du présent. D'où la notion de taux d'actualisation. Avec l'euro qui est une monnaie forte et puis avec les taux d'intérêt qui sont ce qu'ils sont en ce moment, c'est plus compliqué à comprendre. Donc le taux d'actualisation, c'est le taux qui va marquer ma préférence pour le présent. Ça peut être lié au taux d'inflation, ça peut être lié au taux d'intérêt. Voilà, c'est un taux à fixer, hein, que chaque investisseur va fixer en fonction de sa propre stratégie pour ramener au présent toutes les sommes qu'il espère, qu'il escompte toucher dans le futur. Ça va, ça ? Vous voyez l'idée ? Ou ça vous semble complètement abstrait ? C'est un petit peu ce que vous faites lorsque vous placez votre argent dans un livret de caisse d'épargne. Alors, c'est vrai que ça ne rapporte pas beaucoup en ce moment, mais je ne sais plus quel est le taux en ce moment. Ça doit rapporter 1% ou à peine. Si vous placez votre argent, si vous placez 100 euros sur un livret de caisse d'épargne, dans un an, on vous donnera 1 euro d'intérêt. Vous aurez 101 euros. Mais au même moment, l'argent se sera peut-être un peu dévalué, hein. Donc, le 1% qui vous est versé dans un an, le 1 euro qui vous est versé dans un an n'a pas la même valeur que le 1 euro qu'on pourrait vous verser dès le début. Si on vous versait 1 euro dès le début, vous seriez les rois du monde. Hein. Ça serait un intérêt compté ex ante, ce qui n'arrive jamais, hein, heureusement. Mais il n'y aurait pas besoin de calcul d'actualisation. Ça va ? Les questions ? Non ? Alors, d'ailleurs, si vous avez souscrit des crédits, vous voyez que votre banquier vous calcule un taux d'actualisation. Il y a un taux actuariel hein, quand on souscrit un crédit. Ceux qui ont fait des maths financières s'en souviennent. Hein, le taux actuariel, c'est le véritable taux en fait, qui tient compte de la périodicité des remboursements sur toute une suite de flux financiers. Alors, deuxième, tout ça pour vous dire que la finance, hein, toute opération financière est très très liée au taux d'intérêt, à la fluctuation des taux d'intérêt. Deuxième notion, ce qu'on appelle l'effet de levier. Alors ça, c'est une notion très importante en finance. Et je vais vous donner un petit exemple. Alors on m'a dit ce matin que mon exemple, il était pas si clair que ça, donc j'ai essayé d'en améliorer la présentation. On a un investisseur, un monsieur Durand, qui achète un sac de blé 100 euros. Et M. Durand, il pense qu'il va pouvoir revendre dans un an son sac de blé 110 euros. Voilà. Parce qu'il escompte qu'il y aura une demande assez forte et qu'il aura la possibilité donc, de faire un bénéfice de 10% dans un an. Hein. Il aura vendu 110, ce qu'il a acheté 100. Ça va, ça ? Jusqu'à présent, vous êtes familier avec cette notion de bénéfice. Donc, Donc là, vous voyez, il achète 100 et il revend 110. Donc, sa marge est de 10. Deux solutions s'offrent à M. Durand. Soit il achète les 100 en payant sur ses fonds propres. Donc, il casse sa tirelire, hein, il met tous ses fonds propres dans l'opération et il paye le prix du sac de blé. Donc, il achète 100, il investit 100 de ses fonds propres et il récupérera 110 dans un an. Ça, c'est la solution la plus simple. Donc, il va chercher du capital, hein, voilà, il va chercher 100 de capital. Ça peut être ses propres économies ou quelqu'un de sa famille qui lui donne du capital pour acheter. Mais il y a une autre solution, M. Durand, qui est d'emprunter, d'aller voir son banquier. Dans l'exemple que je vous ai donné, il achète toujours 100, il emprunte 80 à son banquier préféré et il revend toujours 110. Alors, il va toucher un flux de 110. Ce 110, il va l'affecter de la manière suivante. Il va bien falloir qu'il rembourse son crédit. Il avait emprunté 80, donc il rembourse 80. Et puis, vous voyez la ligne en dessous, intérêt du crédit. Effectivement, là, j'ai supposé que le banquier lui faisait un prêt à 3% l'an. Donc, il va payer 3% des 80, ce qui fait qu'il paye 2,40 euros d'intérêt au bout d'un an lorsqu'il rembourse le capital. Ce qui fait que, comme il a touché 110, il rembourse 80, il rembourse aussi 2,40, il paye 2,40 d'intérêt. Il va aussi, bien sûr, rembourser ses fonds propres, hein, les 20 euros de fonds propres qu'il avait investis. Eh bien, il va lui rester quoi? Il va lui rester une marge de 7,60 euros. Alors, vous voyez, le paradoxe, c'est, vous allez me dire, où gagne-t-il le plus là? Dans les deux cas, quelle est la solution où il gagne le plus? Quel est le cas de figure qui vous semble le plus rentable pour l'investisseur?
C'est le deuxième, parce que dans le deuxième, il a utilisé simplement 20 euros de son argent.
Oui, tout à fait. C'est le deuxième cas. Mais vous voyez, c'est paradoxal parce que vous voyez bien que là, au début, enfin, dans le premier cas, la marge est de 10. Et dans le deuxième cas, ce qui lui revient en poche, c'est 7,60. Mais ce n'est pas la marge en valeur absolue qui compte. C'est le rapport entre les fonds propres qu'il a investis et le flux qui lui revient à la fin de parcours. Et là, dans ce domaine, là, il avait 10%, il avait une marge qui correspondait à 10% de ses fonds propres dans le premier cas. Et dans le deuxième cas, la marge de 7,60 euros correspond à 38% de ses fonds propres. Alors, vous voyez, c'est ça l'effet de levier. Parce qu'avec peu de fonds propres, il va pouvoir gagner 7,60. Et il a investi que 20 en fonds propres, ce qui fait qu'il lui reste 80 pour investir ailleurs, s'il avait, en supposant qu'il ait 100 euros de capital à l'origine. Donc, il va pouvoir multiplier les investissements grâce au crédit qu'il a demandé auprès d'une banque. Vous voyez ? Ça, c'est l'effet de levier. Et c'est comme ça que sont achetées les entreprises, et dans les mécanismes financiers, l'effet de levier est toujours important. Alors, vous allez me dire, oui, mais il aurait pu emprunter 100% du prix d'achat. Là, il aurait eu un effet de levier maximum. Alors là, oui, mais le banquier aurait dit non. Pourquoi ? Parce que le banquier, lui, il n'est pas associé dans l'opération. Il n'a rien à voir avec la marge finale. Et donc, le banquier, il ne va pas prendre un risque de non-remboursement. Et il va donc vouloir que l'investisseur investisse une partie de ses fonds propres. La partie fonds propres de l'investisseur, c'est une sorte de matelas de sécurité qui permet au banquier d'être remboursé, même si le marché pourrait fluctuer. Je vous ai mis qu'il pensait revendre à 110, qu'il avait acheté 100. Mais peut-être que le cours du blé va baisser et qu'il ne va pouvoir revendre dans un an le sac de blé que 90. Bon, à ce moment-là, eh bien, il remboursera son banquier à hauteur de 80, il paiera ses intérêts à 2,40, il ne lui restera que l'écart. Et puis, s'il revend son sac de blé 70 au lieu de 110, alors là, il a un problème parce qu'il a perdu tous ses fonds propres, mais il a perdu aussi, enfin, il aura un problème pour rembourser son banquier. Il sera obligé de piocher sur d'autres ressources pour rembourser le crédit qu'il a souscrit auprès de la banque. Donc, la banque va toujours exiger qu'il y ait une partie de fonds propres qui vient mitiger, ce qu'on appelle mitiger le risque, ce que les Américains appellent le buffer, c'est-à-dire le matelas de sécurité entre l'investisseur et la marge escomptée et le bénéfice escompté. Ça va ou est-ce qu'il faut que je réexplique? N'hésitez pas. Vous êtes là pour poser toutes les questions indiscrètes.
Alors, moi, je ne sais pas si vous me voyez ou si vous m'entendez, mais je suis un peu perdue et je ne vois pas très bien où on va avec ce cours de finance.
Alors
désolé, c'est un peu abrupt, mais...
Non, mais vous posez une bonne question. Vous posez la question, de pourquoi je vous parle de finance là. Parce que je vais vous parler après des excès de la finance dénoncés par Laudato aussi. Et il faut comprendre un petit peu ce qui est dénoncé par le pape. Et donc, c'est pour ça que je vous parle de ces notions de base, parce que le pape va nous dire, vous l'avez vu tout à l'heure, tout est lié. Hein, et le pape n'est pas d'ailleurs là pour dénoncer un objectif, il ne dénonce pas la finance en bloc, hein, il dénonce une certaine façon de s'occuper, de gérer les affaires financières. Hein. Et donc, pour pouvoir un petit peu comprendre ce que nous dit le pape et aussi voir ce que l'Église propose et participer d'ailleurs aux préconisations de l'Église sur le monde de la finance en relation avec l'écologie, parce que tout est lié, je vous parle de ces notions. D'accord ? J'ai répondu ou... Oui ? Autre question sur la compréhension ?
Non, c'est clair, c'est un peu comme l'explication des Monopoly au début.
En fait, ça illustre un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Ouais. Alors, deux autres notions, je vais un peu plus vite là, mais elles sont fondamentales aussi en finance, c'est ce qu'on appelle le return on equity, le retour sur investissement, le ROE. C'est-à-dire que là aussi, le temps a de l'importance en finance et que l'investisseur qui investit son argent a besoin, enfin, escompte en fait un retour rapide sur son capital, hein. C'est-à-dire que la marge que son capital soit remboursé très vite avec une rémunération, et c'est ce qu'on calcule par le ROE, le return on equity. Le return on equity, c'est une notion qui est utilisée quotidiennement, hein, dans les banques, dans les grandes entreprises. Dès qu'il s'agit d'un investissement, dès qu'il s'agit de sortir de l'argent, on fait ce calcul. Je dirais même que tout acteur économique, plus ou moins, fait ce calcul. Donc, quand vous investissez quelque part, vous faites un retour sur investissement, même si vous ne le formalisez pas de manière mathématique. Dernier point que je voulais aborder ici, c'est la notion de LBO, c'est-à-dire de leverage buyout. C'est la façon de rendre liquide une entreprise. Et ça, c'est au cœur de la finance moderne, et vous verrez que c'est un des aspects qui est dénoncé pour son caractère néfaste par la pensée sociale de l'Église. Le LBO, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous prendre un exemple tout simple. C'est on prend une entreprise familiale qui a des capitaux familiaux. Et puis, il se trouve que l'animateur, le PDG de l'entreprise, n'a pas d'héritier et que donc il n'a pas de possibilité de transmettre l'entreprise à ses enfants. Et donc, à un moment donné, il va vouloir externaliser une partie de la propriété de cette entreprise, garder un contrôle dans l'entreprise. Alors, il va garder peut-être 20% ou 30%, mais il va vendre une partie de l'entreprise, enfin une partie des parts de l'entreprise, à des investisseurs. Alors souvent, ce sont des fonds d'investissement, hein, qui cherchent justement des entreprises à acquérir. Pourquoi les fonds d'investissement vont vouloir acquérir ces entreprises ? C'est qu'eux, ils vont vouloir doper les résultats de l'entreprise pour pouvoir la revendre, pour pouvoir revendre leur quote-part dans les 4 ou 5 ans et faire un bénéfice. Donc, c'est une opération d'achat-revente à moyen terme. Voilà à peu près le LBO. Donc, ce qui se passe dans le LBO, c'est que le chef d'entreprise qui vend une partie de son entreprise, ben, va toucher de la trésorerie, va toucher du cash tout de suite. Hein, et puis, le fonds d'investissement va investir. Mais ce qui va un petit peu bouleverser les cartes, c'est que le fonds d'investissement va emprunter de l'argent pour faire son investissement. Et s'il emprunte son argent, eh bien, il a besoin de rembourser son crédit et de payer ses intérêts. Ce qui fait que le fonds d'investissement va demander à l'entreprise de lui fournir un dividende de plus en plus important pour rembourser les financiers qui ont financé l'acquisition des parts de l'entreprise. Alors, vous voyez le problème. Alors, tous les LBO ne sont pas, ne posent pas problème, ne sont pas problématiques. Hein. Mais il y a un moment où il y a un point limite, là, où le LBO devient quelque chose de néfaste. Pourquoi, à votre avis ? Pourquoi le LBO peut être dangereux ?
Oui, parce que c'est la rentabilité d'une société, il y a aussi un limite qui est lié à sa propre activité.
Oui, Oui, on ne peut pas pousser la rentabilité au-delà des limites de l'activité économique. Oui. Par exemple, une usine de mobile n'a pas la même marge qu'une usine de, qu'une centrale nucléaire ou qu'une usine ou qu'un supermarché, etc. Oui.
Et à ce moment-là, simplement pour finir, et à ce moment-là, je pense que vous l'avez signalé un peu avant, et la société il peut être amené à jouer un peu avec les libres. À jouer avec les faire des choses qui sont pas totalement légales pour masquer la vraie rentabilité. Alors,
non, là je me plaçais pas dans ce cas de figure là.
Ah, okay.
Non, je pense qu'ils vont surtout bénéficier le court terme au détriment du long terme.
Oui, alors ouais. C'est-à-dire.
Eh bien, on va vendre par exemple par morceau une entreprise. Pour ne garder que le corps de métier, mais on aura sacrifié le long terme.
Oui, voilà. Et ça, malheureusement, on a beaucoup d'exemples hein, en France d'entreprises qui ont été rachetées sous LBO et qui ont été quasiment démantelées hein, en quelques années parce qu'on les a vendues en appartement. Si l'entreprise doit servir un dividende très important, eh bien, elle n'a plus la possibilité d'investir, de réinvestir ses bénéfices pour acheter de nouvelles machines, pour faire des investissements à moyen terme ou à long terme. Donc, vous voyez, il y a là, quelque part, une sorte de spoliation de la richesse vive de l'entreprise au bénéfice là, des seuls actionnaires. Alors, il y a des victimes là-dedans. Quelles sont les victimes? Et là, on est bien dans le propos du pape.
C'est les salariés.
Ben oui, les salariés. Parce que là, si les actionnaires pompent toute la richesse vive de la société, les salariés n'auront plus soit une juste rétribution de leur travail, soit ils seront licenciés. Et les entreprises, les productions seront délocalisées par exemple, dans les pays où la manœuvre est moins chère. Hein? C'est typiquement ce qui s'est passé dans le textile, par exemple en France. Vous voyez, la crise du Covid nous a quand même montré qu'on n'était plus capable de produire des masques en France parce que toute l'industrie textile était partie à l'étranger. C'est quand même assez étonnant. J'ai un client là qui travaillait dans le textile qui me disait que quand vous savez, le quartier du Sentier à Paris était un des secteurs de production du textile en France, de la confection, etc. Eh bien, le quartier du Sentier était capable de produire 10 000 pièces par jour. Non, mais je vous dis ça, il y a 30 ans. Hein, voilà. Eh bien, si on avait gardé un quartier du Sentier ou l'équivalent capable de garder un outil de production, on aurait été bien content de produire 10 000 masques par jour au début de la crise du Covid. Bon, c'est un exemple, mais ça nous dit bien quand même quelque chose de la déperdition là, de la richesse vive d'une entreprise. Et puis, il y a un élément aussi qui est du point de vue de l'entreprise. Il n'est pas tout à fait normal que l'entreprise, que la richesse de l'entreprise serve à rembourser un emprunt qui n'a pas été contracté par l'entreprise, mais qui a été contracté par ses actionnaires, par ses associés. Vous voyez ? Et c'est bien, bien ce qui est visé là. Hein ? Le leverage buyout, c'est d'ailleurs le buyout, on dit bien quelque chose, bien ce que ça veut dire. Donc l'entreprise, elle a son objet social, c'est pas de rembourser les associés et les actionnaires. Hein ? L'entreprise, c'est de faire son core business, c'est d'appliquer une stratégie et de développer son rôle sur les marchés. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les LBO sont nocifs, ce n'est pas ça, hein, mais c'est de dire que avec ces mécanismes financiers qui sont complexes et où celui qui vend, celui qui achète, celui qui finance, finalement, concourt au même effet négatif, eh bien, on engendre une finance qui est complètement déconnectée du réel et qui est donc une atteinte aussi justement à l'environnement, à la terre, hein, à notre rapport de l'homme habitant sur la terre. Tout est lié. Alors je terminerai en essayant de répondre sur la question de est-ce que la spéculation est morale. Reprenons la définition du littré. D'ailleurs, il n'y a pas 5 définitions, il y en a 4. Dans la définition du dictionnaire, la spéculation, le mot spéculation, qui n'est pas le mot finance, ce n'est pas la même chose. Hein. La spéculation, c'est l'action d'observer attentivement. Vous voyez bien que ça vise là le rapport entre l'homme et le réel. C'est une qualité de l'homme. L'homme est capable d'observer son milieu, de l'observer assez finement, pour pouvoir en tirer un certain nombre de conséquences et d'interactions avec son milieu. Donc, c'est un des sens premiers de la spéculation. La deuxième définition, c'est la recherche abstraite. C'est la capacité d'abstraction de l'homme. Vous savez, on emploie l'expression « spéculation intellectuelle ». Ça, ce n'est pas du tout péjoratif. La spéculation intellectuelle, c'est l'idée de la capacité de recherche abstraite, de décoller un petit peu du réel. L'homme peut concevoir des systèmes de pensée qui sont très loin du réel. Troisième définition, la spéculation, c'est la théorie par opposition à la pratique. Et là, ça vise peut-être quelque chose qui serait un peu plus critiquable, c'est de dire que ce n'est qu'une construction intellectuelle qui est décollée du réel et qui est peut-être tellement lointaine que ça peut nous paraître en dehors de notre champ de préoccupation. Et puis le dernier sens, qui est le sens qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sens de calcul, de projet, d'entreprise de finance. Dans la spéculation, il y a toujours un projet. C'est toujours le temps qui compte. Il y a toujours l'idée qu'on va développer un projet, on va développer quelque chose. On va développer d'une certaine manière une valeur aussi, une valeur ajoutée pour gagner quelque chose. Là où la spéculation n'est pas morale, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Monopoly, c'est que c'est un jeu à somme nulle. Je m'enrichis de la perte de l'autre. Et ça, c'est typique, par exemple, des marchés boursiers. Si vous jouez à la hausse dans le marché boursier, quelqu'un, par exemple, qui jouerait sur les indices, eh bien, vous vous enrichissez à partir du moment où un autre a joué à la baisse. Et le contraire est vrai. Donc, on est sur un marché avec un équilibre de l'offre et la demande, et le gain d'un des acteurs et la perte de l'autre. Voilà. Et ça, alors, vous voyez, je ne dis pas que c'est immoral, mais ce n'est quand même pas tout à fait moral au sens du développement de la création. Là, on n'est plus dans la valeur ajoutée. On est dans ce qu'on disait tout à l'heure au Monopoly, celui qui gagne, c'est celui qui a ruiné les autres. Mais ça, ce n'est pas une création de valeur. Donc, voilà ce que l'Église nous dit là-dessus avec la pensée sociale, c'est que s'enrichir de la perte d'un autre, ne peut pas correspondre à la morale, à notre morale chrétienne, à l'idée que le bien, enfin, qu'il y a une gratuité et que les biens sont des biens de communion. Et puis, ce qui nous rend la spéculation attirante, désirable, c'est l'appât du gain. Et ça, vous le savez bien, on est tous impliqués dans cet appât du gain. On aime bien avoir placé quelque chose et avoir une rémunération attrayante. On peut même se laisser aller à la griserie du jeu, alors le Monopoly. Mais dans la spéculation boursière, dans la spéculation sur les instruments financiers, il y a quelque chose de la griserie du jeu. Et ça, c'est humain, il faut le savoir. On a envie de gagner. Il y a des gens qui sont très joueurs, qui sont mauvais joueurs ou bons joueurs, peu importe, mais qui sont grisés par le jeu, par le fait de perdre de l'argent et de gagner de l'argent. L'argent étant quelque chose d'assez immatériel. Et donc, le danger là, il est que c'est comme quand on joue au jeu de hasard. C'est de ne plus pouvoir s'arrêter et d'en être ruiné. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous citer une phrase de Françoise Sagan. Françoise Sagan, c'était une grande joueuse devant l'Éternel. Elle s'était faite d'ailleurs interdite de casino. Elle disait qu'elle écrivait qu'elle adorait sortir au petit matin du casino de Deauville complètement ruiné. C'était un plaisir pour elle. Bon, elle avait sans doute quelques moyens pour éprouver ce plaisir, mais elle décrivait bien par là cette griserie absolue. Peut-être c'est quelque chose de presque métaphysique. En jeu, là, il y a peut-être la vie et la mort dans cette séduction du jeu, du gain ou de la perte totale. Donc, oui, la spéculation est dangereuse parce que elle peut provoquer une addiction. Et surtout, la spéculation, elle n'est pas respectueuse, vous voyez, de la création. Autant développer un projet, créer de la valeur, c'est quelque chose qui entre dans le plan de la création. L'homme est sur Terre pour habiter et pour participer à la création du monde. Et ça, c'est vraiment les évangiles, c'est toute la doctrine de l'Église, tout le magistère de l'Église qui nous dit ça. La spéculation, c'est s'enrichir parce que j'ai une information que l'autre n'a pas, voyez, parce que le marché n'est pas complètement transparent. Donc, je vais bénéficier d'une information que l'autre n'a pas, qui va me permettre de m'enrichir à bon compte. Mais ce n'est pas une richesse qui apporte une valeur à la création. Voilà. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, la prochaine fois, on va rentrer dans le détail sur ce que nous dit le pape. Je vous ai mis d'ailleurs le plan du cours sur ce que dénonce le pape dans Laudato aussi. Et puis surtout, on essaiera de construire aussi de donner en réflexion quelques éléments pour une finance éthique, pour une finance plus durable et une finance qui soit finalement en harmonie aussi avec la création tout entière et avec le respect que l'on doit à la création. Tout est fragile, mais nous sommes créatifs, nous pouvons être inventifs. Et en cette période de sortie du Covid, en cette période aussi d'anniversaire de Laudato Si, je crois que la réflexion des chrétiens, elle est d'autant plus importante. L'Église est étonnamment discrète sur ces questions économiques. On a vraiment, nous les baptisés, à prendre la parole dans les milieux qui sont les nôtres sur l'économie. C'est très très important parce qu'on entend toujours les paroles de nos évêques sur les questions de biologie, de bioéthique, etc. Et c'est très important, bien sûr. Mais quand les évêques parlent de l'économie, eh bien, les médias ne reprennent jamais leurs paroles. Enfin, c'est très, très rare. C'est très, très... Alors, le pape est plus entendu, il est plus repris par les médias. Mais je pense que nous, on a, en tant que baptisés, en tant que chrétiens, on a un rôle aussi pour relayer cette parole. Oui, l'Église a une parole sur l'économie, une parole sur l'écologie, une parole sur l'homme qui habite le monde. Et c'est bien ce dont il est question ici. Est-ce que vous avez, pour finir, une question, une remarque ou quelque chose à ajouter ?
J'aimerais bien simplement, j'ai bien aimé cette idée d'un jeu à somme nulle, comme les monopolies, parce que dans un moment donné, on pourrait dire que la Terre, on peut la considérer comme un système fermé. Il y a seulement l'énergie des soleils qui entre et qui transforme, mais on a... À l'extrême, cette réflexion, on va devoir l'appliquer sur la Terre.
Oui, par exemple, les sources d'énergie ne sont pas inépuisables.
Oui.
Bon, ça, c'est sûr. Alors, ça va complètement à l'encontre de ce que nous dit le président Trump, par exemple. Hein, il faut économiser et surtout, il faut, transmettre à nos enfants une terre qui garde encore un certain nombre de richesses pour que nos enfants puissent j'aime pas le mot utiliser, mais puissent en jouir, quoi. Par exemple, c'est le cas pour les ressources en eau. Les ressources en eau potable sont pas extensibles à l'infini, même si les glaciers fondent.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que longtemps pour l'Église, tout ce qui avait trait à l'argent était quelque chose de satanique, qu'il fallait pas trop y toucher. On laissait ça aux autres, on laissait ça aux Italiens, on laissait ça aux Juifs. Voilà. Et c'était amoral de s'enrichir.
Oui. Alors, c'est ce qui est curieux, parce que vous avez lu la parabole des talents. Dans la parabole des talents, vous savez, l'ouvrier qui ramène le talent sans l'avoir fait fructifier, se fait réprimander par le maître, et le maître lui dit: mais tu aurais pu au moins, sans faire de bénéfice, tu aurais pu au moins mettre l'argent à la banque, mettre ton talent à la banque, et il t'aurait rapporté un intérêt. Donc c'était Jésus a utilisé ce mot. Alors c'est pas parce que je suis banquier que je veux récupérer la chose, mais ce que je veux dire, c'est que la notion d'argent n'est pas indépendante du message de Jésus. Par contre, Jésus nous dit bien que l'argent n'est pas une fin en soi et que il faut rendre à César ce qui appartient à César et que l'argent n'est qu'une valeur d'usage, quoi. Ce n'est qu'un instrument.
Ça. Mais alors, qu'est-ce qui fait que les pays catholiques comme l'Italie, la France, l'Espagne ont si longtemps été battus par les pays protestants du nord de l'Europe? Qu'est-ce qui fait que nos pays catholiques étaient tellement méfiants à l'égard de l'argent.
Oui, alors, vous savez, c'est les textes de Max Weber hein, qui disait que la prospérité des pays protestants était plus forte que les pays catholiques du fait de cet ostracisme sur l'argent. Mais alors, ça peut se lire de deux manières, hein, parce que d'abord, les instruments financiers que je vous ai cités, ils ont été créés en Italie. Hein, voilà. Et que, quelquefois, l'interdiction proférée par l'Église a permis de développer des systèmes de contournement, vous voyez, assez complexes pour pouvoir quand même faire de la finance. Hein. Donc, ça a motivé la créativité. Il y a un exemple à notre époque, c'est ce qu'on appelle la finance islamique. Parce que l'islam aussi interdit le taux d'intérêt. Dans la finance islamique, il n'y a pas de taux d'intérêt. Mais c'est un système qui est tout à fait reconnu, hein, la finance islamique. Il y a des banques qui sont spécialisées là-dedans. C'est des systèmes très complexes pour finalement mettre en place des financements. Et alors, on n'appelle plus ça des intérêts. On appelle ça des rémunérations d'avance en compte courant, de la participation aux bénéfices d'une entreprise, etc. Enfin, il y a tout un système qui fait qu'on respecte les règles de l'islam et on fait quand même une opération financière. Donc, ça prouve que l'homme est inventif. Après, peut-être que je pense qu'une des grosses différences entre le catholicisme et le protestantisme, c'est peut-être la vision qu'on a de l'homme qui s'enrichit, du riche. Dans le catholicisme, on considère souvent que le riche, c'est spolier les autres. Hein? Dans le protestantisme, on considère que le riche, il est arrivé à la sueur de son front et que s'il a réussi, c'est qu'il était meilleur que les autres. Alors, les deux, je caricature, hein, mais c'est vrai, par exemple, je pense que la grosse différence qui nous oppose avec les Américains, c'est nous les Français, c'est qu'on a un rapport à la richesse qui est un peu différent. Hein. Pour un Américain, dire ce qu'il gagne par mois, ça ne pose pas de problème. Ou dire le montant de son compte en banque, ça ne lui pose pas de problème, il en est fier. Un Français ne dira jamais à son collègue combien il gagne. En tout cas, nos générations, peut-être les jeunes, sont plus détendus avec ça. Donc, cette perception de la valeur humaine, l'argent, en fait, vient consacrer une valeur humaine, alors que dans notre sens, dans un autre point de vue, celui qui s'est enrichi, il l'a fait parce qu'il a utilisé des moyens pas très nets, pas très, voilà, un peu frauduleux. C'est une tentative d'explication.
Oui.
Remarque.
Les grosses fortunes du 19e en France, c'était bien aussi des protestants, les Pereire, enfin bon, les juifs aussi, Rothschild, oui, mais oui. Voilà.
Quoi, c'est oui, quand oui, enfin, il y a eu des catholiques aussi, hein, mais oui, tout à fait.
Il y en a peut-être quelques-uns, mais il y en a moins quand même. Les grandes banques aujourd'hui sont toutes tenues par des familles protestantes ou les grandes entreprises multinationales, enfin françaises en tous les cas. Je pense à Hermès, je pense à voilà, des boîtes comme ça. Quoi.
Oui. Jo.
Oui. Quelqu'un voulait rajouter? Ah oui, non, Peugeot, vous avez dit.
Peugeot, par exemple, ils sont des protestants.
Oui, Peugeot. Oui.
Ouais. Et par contre, on a Michelin qui sont plutôt catholiques, vous voyez.
Ouais.
Donc, il ne faut pas...
C'est peut-être la notion de responsabilité. Non, pendant des années, les catholiques étaient censés faire confiance à Dieu et les protestants faire confiance à eux-mêmes.
Oui, il y a peut-être ça aussi, tout à fait, oui. Oui, et puis alors il y a aussi le fait que les principales économies mondiales, enfin je pense aux États-Unis, sont plus, enfin majorité protestante par rapport à plusieurs religions. Aussi. Mais c'est vrai que, en tout cas en Europe, la différence entre le Nord et le Sud, elle est très, très prévalente. Hein. Nous, la France, on est entre les deux, mais on est quand même plutôt rattaché vers le Sud. Enfin, on est de droit romain, hein, ça c'est évident. Donc, on est plus proche de l'Italie et de l'Espagne que de la Hollande voire même de l'Allemagne dans la conception, dans la façon de faire les affaires. D'ailleurs, les banques françaises ne sont pas organisées de la même manière que les banques anglo-saxonnes. Même dans leur organisation, c'est un petit peu différent. Voilà, ben, il est 22h10. Je crois qu'on a dépassé le temps qui nous était imparti. Je vous remercie de votre attention. Donc vous trouverez le support du cours, il a été enregistré, vous aurez aussi les slides, et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, avec aussi Zoom comme média. Vous voyez qu'avec Zoom, finalement, on peut faire aussi de l'interaction, même en étant nombreux. Voilà, merci et bravo. Bonne soirée.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Merci.
Merci.